Vous êtes en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices de notre société contemporaine. Maintenant, est-ce qu'on a encore le droit de manifester au Québec? Depuis quelque temps, c'est la question cruciale qui revient sur les lèvres des militantes et militants, des citoyens de toutes les classes. Est-ce qu'on peut continuer à manifester dans les rues au Québec sans être arrêté et poursuivi aux criminels? Alors, chère auditrice, chère auditeur, il y a visiblement une inquiétude qui s'installe et s'aggrave de plus en plus chez les citoyens au Québec pour la simple raison, la classe politique ne donne pas de réponse claire à cette question. Étrange, les manifestations au Québec sont classées préalablement autorisées et non autorisées. Autrement dit, il y a deux poids, deux mesures, ce qu'on autorise et ceux à qui on interdit, on leur réserve la chasse aux sorcières, tolérées ou bien tolère et répression devant un droit commun, le droit de manifester. Alors nous sommes rendus à ce stade où les gens ont trop peur de descendre dans la rue et rejoindre une manifestation. Dans la population québécoise, les jeunes sont devenus les plus craintifs. Ils évitent à tout prix de participer à des manifestations de crainte justement de se retrouver entre les pattes de notre système judiciaire. Et à partir de là, personne ne peut prédire réellement la suite des choses. Alors, chère auditrice, chère auditeur, je veux que vous compreniez que cette manœuvre planifiée et téléguidée graduellement dans le but de décourager définitivement le droit de manifester pour cette seconde classe de citoyens a effectivement donné des résultats encourageants à certains niveaux politiques. Et une grande partie de nos citoyens au Québec ont trop peur, je dis bien, ont trop peur de se retrouver même accidentellement au milieu d'une manifestation. Alors, écoutez, chère auditrice, chère auditeur, quand on arrive à ce stade de poser la question publiquement, est-ce qu'on a encore le droit de manifester au Québec? C'est qu'il y a un méchant problème dans cette société et pourtant nous sommes devant un droit fondamental de notre propre existence. Interdire ce droit de s'exprimer d'une manière ou d'une autre est une erreur monumentale, impardonnable. Quand on nous enlève le droit de s'exprimer de n'importe quel moyen qui soit au moment d'être pacifique, c'est la liberté de ce citoyen classé injustement en seconde classe qui est mise en cause. Maintenant, interdire ou décourager à qui que ce soit un tel exercice est une atteinte à la liberté collective, j'ajoute même la liberté d'exister. Alors accrochez-vous, chers auditrices, chers auditeurs, il n'y a pas de seconde classe. Nous sommes tous citoyens sur le même pied d'égalité en droits et obligations et malgré les embûches, les entraves, ne vous devrez jamais, je dis bien jamais, se détourner au droit de manifester votre opinion, votre désaccord en marchant la tête haute. Vous avez le droit, chers auditeurs, de manifester, vous avez le droit d'exprimer votre opinion et le gouvernement en place a l'obligation de vous rassurer et protéger ce droit fondamental. Encore mieux, il a tout intérêt de vous encourager à le faire. C'est une fierté, chers auditeurs, de voir un peuple réveillé qui exerce ses droits et respecte ses obligations dans une société civilisée comme la nôtre. Vous avez, je dis bien, vous avez même l'obligation de manifester votre désaccord. Maintenant, la communication, chers auditeurs, chères auditrices, c'est la clé de la politique. Tout, je dis bien tout, réside dans le dialogue et vous avez élu un ours polaire, pas trop habile dans l'art de communiquer ses pensées. Alors vous allez, qu'est-ce que vous voulez? Vous allez vivre avec ça jusqu'à la prochaine élection. Et d'ici là, vous avez suffisamment le temps de mieux réfléchir. Je ne reproche rien à notre ours polaire de Québec. Et il est ce qu'il est. Vous n'allez pas reprocher un handicapé son handicap, un sourde va continuer d'être un sourde et un aveugle va malheureusement continuer d'être un aveugle. Au niveau municipal, je préfère, chère auditrice, chère auditeur, de ne rien dire, sauf que vous avez élu, chère auditeur, un petit bulldozer à la ville de Montréal, une machine fortement attirée par le prestige de l'image, résultat de votre choix, un bulldozer est fait pour détruire et jamais pour construire. C'est un coureur d'image et de prestige que vous avez élu. Alors, vous allez aussi vivre avec ça jusqu'aux prochaines élections. Ceux qui sont éblouis, je dis bien ceux qui sont éblouis par l'image, vous n'avez rien vu encore, nous sommes en distance de lumière de ce que vous appelez le dialogue. Maintenant, revenons à cette manifestation du début du mois, du mai, une manifestation qui a mené à 84 arrestations et 27 accusations criminelles. Alors, une manifestation, je dis bien naïve, composée, comme je l'avais déjà annoncé, de femmes, d'enfants, d'étudiants, de personnes âgées, et en plus, imaginez-vous, des handicapés, disons, et quelques anticapitalistes, une manifestation parmi les plus pacifiques qui auraient pu être entendue et félicitée par l'ours polaire du Québec, mais... Qu'est-ce que vous voulez, cher auditeur? Cette manifestation visait justement la nouvelle politique de notre ours polaire lui-même. Et ceux qui connaissent ce mammifère, ils savent très bien aussi qu'est-ce qui peut arriver à ceux et celles qui s'approchent un pas de trop sur la banquise un peu trop glissante, voire encore le saut, je dis bien le saut d'attaque des gardiens robots de cette banquise. Ici, malheureusement, le corps policier de la SPVM fait pitié dans ce décor. Alors bien sûr, je suis un peu en colère en ce moment parce que, à l'instant que je vous parle, l'une de ces participantes de cette manifestation du 1er mai, qui n'a pas eu lieu finalement, cette personne est présentement devant la cour municipale de Montréal pour répondre à des accusations criminelles. D'abord, qui est cette femme? Alors il s'agit d'une femme âgée de 51 ans, mère de 6 enfants, qui, en n'arrivant pas à rejoindre les deux bouts, avait décidé ce 1er mai de descendre dans la rue pour tenter d'ouvrir un dialogue avec l'ours polaire de Québec, mais malgré la banquise qui est glissante, elle a vu que c'était de son devoir de rappeler à l'ours polaire qu'il ne faut pas toucher aux familles de son espèce. Ils sont nombreux, ces familles pauvres au Québec, les toucher dans cette politique de chasse à la graisse risque de les abîmer davantage. Alors je vous rappelle, chers auditrices, chers auditeurs, également que cette mère que j'ai rencontrée cette semaine dans nos bureaux de Mage, elle est venue avec ses parents pour s'installer au Québec à l'âge de 10 ans. Imaginez-vous, il lui a fallu 41 ans, je dis bien 41 ans, pour savourer la démocratie à la québécoise. 41 ans pour comprendre, ou plutôt pour se rendre compte que la démocratie est une vilaine blague au Québec. Rendue à cet âge de maturité, elle voulait exprimer son désaccord vis-à-vis à l'austérité de l'ours polaire du Québec. Alors, elle ne revient pas de ce qui lui a été arrivé dans cette soirée du 1er mai. Elle me disait « J'étais traîné sur l'asphalte par les policiers de l'SPVM. J'étais traîné comme un torchon. » Alors que j'avais dans la main gauche une pancarte où j'avais inscrit quelques mots parmi eux, dignité. Alors, quête de dignité. Dignité, chers auditeurs et chères auditrices, et traîner une mère de 6 enfants par terre parce qu'elle est venue tout simplement dire non à l'austérité envers ses foyers déjà incendiés par une misère qui pèse sur eux. Résultat, traîné par terre, tabassé, arrestation, menottes, conduisé au poste de police, accusé au criminel, et la liste est longue. Alors, chère auditrice, chère auditeur, cette mère-là n'est pas venue déclarer la guerre aux agents de la SPVM. Elle ne menace pas la sécurité nationale. Elle est descendue à la rue tout simplement pour dire non à l'austérité. Maintenant, se levons, quelles sont les accusations criminelles que les agents de la SPVM utilisent dans des telles circonstances? Ils sont toujours les mêmes, et la meilleure, c'est que ça fonctionne à chaque fois. Il n'y a aucun juge qui va leur demander de trouver d'autres accusations, parce que ça devient un peu gênant de recourir aux mêmes accusations chaque fois qu'il y a un policier face à un citoyen. Voie de fait sur un policier et entrave au travail d'un agent de la paix, la même ordonnance. Un policier peut traîner sur l'asphalte comme un torchon. Un citoyen, il peut le tabasser comme un chien, puis pour se protéger, il va, ou plutôt il a l'avantage de vous accuser sans que vous ne pouvez dire un mot. Alors il vous colle une série de chefs d'accusation criminels, le reste, débrouillez-vous, il s'en fiche carrément. Maintenant, je dis bien, c'est le stratège, bien sûr, malsain des corps policiers entre se défendre pour enlever les accusations qui pèsent sur vous et poursuivre un policier fautif. Il y a un fossé à franchir. Et la plupart des victimes, chers auditeurs, chères auditrices, sont découragées, voire brisées en deux de faire quoi que ce soit. La plupart des victimes cherchent juste de se débarrasser de ce piège de fausses accusations tendues par les policiers. Alors, je dis bien cette mère qui se trouve présentement, à l'heure que je vous parle, elle est devant la cour municipale pour répondre justement à des accusations criminelles, voie de fait, contre un policier et entrave. Et je pense bien que cette mère de famille ne va jamais participer une seconde fois dans une autre manifestation. Le nombre justement de manifestants traduits devant la justice sur des fausses accusations est devenu alarmant. Inquiétant même. Maintenant, est-ce que le droit, chers auditeurs, chères auditrices, est-ce que le droit de manifester est en train de disparaître pour certains et il va demeurer pour d'autres? Justement, nous observons au Québec des changements qui s'installent depuis 2012. Est-ce que nous devons, ou plutôt nous devrons abandonner ce droit de s'exprimer? Est-ce que nous devrons se replier à cette répression purement politique, une répression brutale et agressive, sans droit aucun? Est-ce que nous devrons tout simplement, chères auditrices, chers auditeurs, renier notre propre dignité? La seule chose qui nous reste dans cette putain de vie, le droit de s'exprimer, de marcher sans crainte dans la rue et de dire non. Voilà. Alors, au micro, chers auditeurs, chers auditeurs, Adj Zitouni, président du mouvement Action Justice, un organisme qui fait, soi-disant, la surveillance civile de nos institutions judiciaires afin de prévenir et dénoncer les rabis de pouvoir. Alors, j'ai avec moi dans le studio M. Abraham Wasfeld. Il est docteur en sciences politiques de l'ECAM. Alors, d'abord, je vous rassure qu'il n'est pas là pour nous donner un cours sur le droit de manifester, mais il appartient au lot de ces manifestants qui ont voulu participer à la marche du 1er mai. Contre l'austérité, il était à son tour arrêté, accusé au criminel. Les agents de l'SPVM l'ont forcé de signer un document qui l'interdit, imaginez-vous, ils l'ont obligé de signer un document qui l'interdit de participer à d'autres manifestations. Bien sûr, il a refusé, alors que les autres, dans la plupart du temps, faussement accusés, je dis bien faussement accusés, l'ont signé pour recourir à leur liberté. Alors j'ai une autre question maintenant justement qui s'ajoute. Depuis quand les policiers peuvent décider qui va participer ou non à une manifestation? Comment peuvent-ils justement transgresser une ligne pareille? Est-ce qu'il ne s'agit pas d'un exercice réservé à la cour seulement? Alors nous allons aussi tenter de rejoindre cette mère aussi de 6 enfants qui se trouve actuellement devant la cour municipale pour répondre à des accusations de voie de fait contre un policier entrave, Madame Sandra Cordero. Alors, vous la connaissez probablement, le journal Le Devoir a pris le temps de l'écouter, il lui a consacré un article un peu sérieux le début de cette semaine. Nous allons également, un autre participant, donc on appelle le mot, je pense, Emmanuel Salamanca. Alors ce type-là, il connaît bien Madame Cordero. Il va peut-être nous rejoindre dans le studio vers la fin de cette émission-là. Il nous parlera, si nous aurons suffisamment de temps, de ce combat pour les femmes immigrantes exploitées à l'extrême. J'ai dit bien des femmes immigrantes exploitées à l'extrême pour des salaires de misère sans que l'ours polaire s'occupe de quoi que ce soit pour corriger leur situation. Et finalement, j'ai Madame Paola Martinez. Elle a une formation en droit dans son pays d'origine sans pouvoir exercer, bien sûr, au Québec. C'est une bénévole qui rejoint les rangs de notre mouvement. Elle est là et elle peut intervenir à tout moment. Est-ce que, je répète aussi la question, est-ce qu'il est encore possible de participer à une manifestation au Québec sans être accusé au criminel? Est-ce que le droit de manifester est permis pour certains et interdit pour d'autres? Je vous laisse avec cette question et au retour, nos invités vous disent un peu plus. Restez à l'écoute.
Les racketeurs sont à la lune. un rôle à jouer, un rôle moral, un rôle civique pour nous aider à retrouver. Tous ceux dont on est sans nouvelles, disparus, volatilisés, ce soir je vous lance un appel, vous seuls pouvez nous renseigner. Quel basson la malheureuse a-t-elle un jour pu s'égarer? À quelle manœuvre très douteuse a-t-elle fini par se livrer? Ce soir, après la roue de la fortune, la main de ma sœur est à la lune. C'est une émission fracassante sur les tréfonds de la société, une tranche de vie saignante que vous ne pouvez pas manquer. Un homme qui a payé sa dette, 20 ans de prison mérité, reconstituera en direct le crime qu'il a perpétré. Ce qui se passait dans sa tête, combien de fric il a touché en appuyant sur la gâchette pour refroidir un député. Ce soir, après la roue de la fortune, les assassins sont à la lune. C'est une série faramineuse de grands débats télévisés, de controverses fabuleuses, de face à face sans pitié. Entre qui saigne et qui charcute, entre bourreau et torturé, entre un ripou et une pute, un délateur, un dénoncé. Entre un para et un felouse, entre un violeur et des violés, et puis, comme une apothéose, entre SS et les portés. Ce soir, après la roue de la fortune, un parfum scène est à la lune.
Alors voilà, rebonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville 102.3 FM avec votre émission du Mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Et le sujet d'aujourd'hui, justement, est-ce qu'on a toujours le droit, encore le droit de participer ou de manifester au Québec? Alors, j'ai, comme je vous avais promis, nous sommes en train de tenter de rejoindre Sandra, qui est présentement à la cour municipale. Son collègue, il est là. Elle n'est pas encore arrivée. Peut-être qu'il va nous dire deux mots. Bonjour.
Bonjour. Mon nom est Manuel Salamanca.
Monsieur Salamanca, oui. Vous avez assisté à la cour ce matin.
Oui,
de Sandra.
Oui. Il y avait un groupe de personnes qui ont été à la porte de la cour.
Il y avait des personnes qui sont venues pour appuyer Madame Sandra.
Oui, c'est ça.
C'est Codero, hein?
Oui.
Madame Codero, oui. Vous la connaissez personnellement?
Oui, je la connais personnellement.
C'est une mère de 6 enfants.
Oui, c'est une mère.
Voulez-vous nous dire pourquoi elle était allée manifester?
Oui, parce qu'elle a été victime de la brutalité policière, les premières de mai.
Oui.
Et il était arrêté, il a été pris par la police.
Oui.
Mais apparemment, il y avait quelqu'un motif.
Il n'y avait pas de motif selon vous?
Oui. Mais c'est...
Mais elle était accusée pareil, là.
Oui. Mais c'est relationné avec les processus de répression que les gouvernements suivent avec les mesures qui viennent avec la mesure d'austérité
qui sont
implantées dans ce moment. Oui. Que c'est un projet graduel.
Mais vous la connaissez, Madame Sandra Codero. Pour vous, est-ce que c'est une femme qui peut, je sais pas moi, est-ce une femme qui est agressive?
Non.
Moi, je l'ai rencontrée, elle était super.
Il fait beaucoup de travail communautaire. Il a aidé beaucoup de les personnes.
Son travail, c'est elle fait du communautaire. Hein?
Oui, oui,
elle,
oui.
Elle travaille comme bénévole aussi.
Oui, 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 elle travaille comme bénévole. Dans ce moment, il est relationné. Il est dans un certain processus de l'essence des travailleurs immigrants, des processus d'éducation qui se fait avec des travailleurs.
Elle, sur son combat, vraiment, c'est rendre un peu de dignité pour ces femmes immigrantes qui viennent ici et qui n'ont pas de travail finalement. Ils sont exploités par des personnes qui les payent. Elle m'a dit, on arrive à payer 5 dollars l'heure pour des gens ici.
Oui, oui, il y a beaucoup de cas d'exploitation.
Oui.
Et l'exploitation en ce moment est très intensive. Est-ce que l'exploitation opère sur les personnes les plus vulnérables?
Exact.
Et une condition de vulnérabilité, les sujets d'immigration, mais aussi d'être femme, et aussi d'être femme seule et avec des filles. C'est une situation très vulnérable,
oui.
Très difficile.
Et peut-être justement, Mme Cordero, elle est engagée dans son combat-là. Elle veut justement défendre ces femmes-là qui sont en train finalement de souffrir. Hein. Et elle est justement, le 1er mai, elle est descendue à la rue, dans la rue, justement pour dire non à l'austérité, parce que ça la touche directement, et ça touche ces femmes-là. C'est exact?
Oui, c'est ça, parce que c'est une réaction à la mesure d'austérité, parce que l'austérité provoque la croissance de la vulnérabilité des jeunes qui se permettent d'être plus exploités comme travailleurs, non?
Oui, oui.
C'est ça.
Mais après, je sais qu'elle était traînée, elle était, avant d'arriver à l'accusation, elle avait quand même, elle a vécu vraiment un mauvais quart d'heure avant l'arrestation. Est-ce qu'aujourd'hui, avec cette accusation et tout ce recul-là, pensez-vous, à votre avis, vous qui la connaissez, comme si Mme Cordero plus, est-ce qu'elle va continuer à participer à des manifestations, plutôt selon moi, elle va se retirer parce qu'elle a trop peur?
Oui, je pense que oui, parce que c'est une opportunité aussi pour informer les gens des choses qui, des procès de répression, et comme cette répression est relationnée avec l'austérité et comme procès de lien aux libéralisations de l'État canadien et de l'État québécois aussi.
Oui,
c'est une forme de lutter, mais on même de mobiliser les gens pour que les gens puissent comprendre et s'éduquer sur cette loi aussi. C'est une opportunité.
Ce matin, à la cour municipale, vous étiez nombreux, j'imagine, à supporter et appuyer Mme Sandra. Est-ce que, selon vous, les gens, ils appuient parce que c'est une accusation, fausse accusation, ou c'est parce que pour donner un peu plus de courage à cette femme-là?
Je pense que c'est pour les deux choses. Non?
Les deux choses, oui.
Les deux choses, pour soutenir à Mme Cordero, mais aussi pour que beaucoup de gens commencent à comprendre de qu'il s'agit de toute cette situation de répression.
Et les gens qui sont venus, c'est vraiment, c'est des gens qui étaient un peu de toutes les souches. On parle sud-américains.
Non, pas seulement, il y avait personne québécois aussi, parce que la précarisation qui est provoquée par la mesure des autorités aussi devient sur le travail des mêmes que des citoyens québécois.
Mais c'est des personnes vulnérables,
oui.
Ça, vous le citez, oui.
Oui, parce que la vulnérabilité avance, c'est produit sur l'exercice des pratiques de précarisation sur les plus vulnérables.
Ok. Alors, peut-être on va essayer quand même de tenter de rejoindre Sandra Cordero. On fait des tentatives jusqu'à présent, mais comme elle est à la cour, c'est un peu difficile de la rejoindre. Mais directement, je retourne vers M. Abraham Westfeld. Est-ce que j'ai bien prononcé votre nom, M. Westfeld?
C'est Westfeld, oui.
Westfeld, merci beaucoup d'être ici ce matin sur le studio, justement, pour nous parler. Alors, je sais que le problème, c'est que vous-même, vous étiez le premier mien dans cette manifestation, et c'est la personne qui était en train de filmer Sandra quand elle était dans cette arrestation, hein, quand elle était brutalisée par les policiers.
Oui, j'étais en train de faire une vidéo de l'arrestation de Sandra de première instance.
Oui.
Et après, quand elle était en effet brutalisée, pendant qu'elle était prise sous contrôle de 3-4 agents de police.
Mais monsieur Westfeld, vous l'avez vu vous-même traîner, parce qu'elle disait que j'étais traîné comme un torchon sur l'asphalte, et elle avait une pancarte en main qui m'a marqué le mot dignité. Moi, je l'ai vu de toute façon dans le journal de Devoir. Vous pouvez regarder dans le 11, hein, le journal de Devoir, le 11 mai. Vous pouvez voir Madame Sandra Cordero dans cette une photo où on le voit avec le policier qui le tient.
Oui, on peut voir qu'elle a été mise à tomber au terre,
par terre et
par
tout.
Un policier, oui.
Alors, avant de revenir un petit peu, peut-être, on va revenir avec cette histoire de cette manifestante qui est accusée au criminel, comme plusieurs d'autres, et qui est présentement à la cour municipale. J'aimerais bien revenir avec vous. Vous êtes docteur en sciences politiques de l'Université de l'UQAM.
Oui,
et vous avez soutenu une thèse de doctorat justement qui est le titre c'était vraiment Nation, Société et l'État.
La réconciliation
de l'identité nationale palestinienne et juive.
Oui.
Qu'est-ce qui vous a amené à cette thèse-là qui est quand même assez importante et intéressante?
Parce que pour dépasser l'enjeu imposé sur le peuple juif et surtout le peuple palestinien par le mouvement sioniste qui a pris contrôle de la culture politique juive après l'Holocauste, quand la plupart des juifs progressistes étaient massacrés par les nazis,
exact.
Comme ma famille en Pologne. Alors,
fait référence à l'Holocauste.
Oui, c'est ça. Entre ma famille, par exemple, il y a 4 survivants entre 400.
My God.
Et 2 familles de mes parents, de chacun de mes parents. Alors, là,
c'est ça qui vous a intéressé. Alors, finalement, cette recherche, c'était vraiment, ça vient d'une blessure un petit peu
alors,
profonde.
En philosophie politique, j'ai cherché l'origine de cette catastrophe. Comment ça peut arriver comme ça dans un pays considéré comme un des plus civilisés dans le monde? Alors, avec un mouvement progressiste énorme, de toutes sortes de tendances, comment ça peut arriver? Alors, j'ai trouvé que j'étais obligé de faire une critique fondamentale de l'État-nation qui était proposée par Hegel. Et maintenant, on trouve que le même État est en train de prendre des pouvoirs qui étaient, il y a longtemps, annulés, comme durant la Révolution anglaise en 1650, quand
la répression?
Oui, quand tout le monde était considéré comme libre après le roi Charles II était déposé et perdu sa tête, en effet.
Exact.
Alors, le domaine public était établi à cette fois-là, pas des terres de la couronne, mais les terres de la pays sont devenues les terres de tout le monde dans le pays, du domaine public.
Mais parce que vous utilisez un mot qui est important aussi, ça veut dire pour vous, la manifestation, c'est du domaine public.
C'est ça, on est en sorte dans le domaine public. Nous, on est le public.
Oui, exactement.
On n'est pas des marginaux, on est des publics.
Voilà.
On a des mêmes droits que tout le monde. On ne veut pas prendre plus d'espace que n'importe qui.
Oui.
Mais les automobiles ne doivent pas prendre notre espace à exclusion du peuple, du public.
Oui. Monsieur Westfeld, quand même, vous avez quand même 67 ans. Vous avez ce courage-là de poursuivre vos études pour un but bien précis. Et vous avez quand même... Vous restez pas chez vous, derrière votre bureau. Vous descendez aussi, vous participez à ce genre de manifestation-là. Et vous avez... C'est pas la première, d'ailleurs, de celle du 1er avril, où vous étiez aussi arrêté, malheureusement, parce que vous étiez en train de filmer. Revenons un petit peu, reculons un petit peu en arrière. Vous avez aussi... Il y avait une autre arrestation aussi avant, le 5 avril 2013, où vous étiez aussi... accusé.
Oui, c'est ça. J'ai été mis dans une souricière après quelques minutes. On a marché après le parc Amélie Camelin. J'étais en train de filmer. Je suis journaliste, en effet. Avec YouTube, j'ai 1000 vidéos et 40 000 vidéos.
Vous informez le public de ce qui se passe dans...
Alors, je fonctionne comme journaliste indépendant et j'étais traité comme un petit rien de tout.
Oui, c'est ça qui... Et pourtant, on vous voit vous êtes devant nous, vous avez 67 ans, vous êtes quand même assez fragile, vous pesez le poids d'une plume, si je ne me trompe pas.
C'est la première fois que j'étais matraqué.
Oui, je vois, c'est ça.
Je jure que
comment,
ça fait
je
mal.
Je me demande justement...
Ça
comment,
fait mal encore.
Matraqué, ça me bouleverse de voir quelqu'un de votre taille, de votre poids, matraqué par un policier. Est-ce que ces gens-là, est-ce qu'ils réfléchissent avant ou ils sont vraiment sur la défensive, des gens, ils distinguent même pas les personnes qui sont en face d'eux.
Oui, à 7h30 à cette soir-là, ils n'étaient pas en mesure de maîtriser la manifestation. La manifestation continuait avec plusieurs contingents qui sont rentrés dans le carré Phillips.
Oui.
Alors, ils s'étaient frustrés. Et à ce point-là, il est mis en attaque. Toute une ligne de police qui sont descendues sur nous. Et on était en train de marcher tranquillement dans la rue. Et une après l'autre, c'est pas juste une policier qui m'a matraqué. C'était trois fois que j'étais frappé au dos.
Vous souffrez jusqu'à aujourd'hui, monsieur?
Oui, je suis sur les médicaments anti-inflammatoires après l'hôpital. Oui. Et c'était un geste de pouvoir sans restreint que j'ai vu. Quand j'ai tourné, j'ai vu que la police était en train de descendre sur moi. J'ai même une vidéo de cet événement que j'ai téléchargé sur YouTube. Et ils sont venus une après l'autre pour me frapper au dos, pour me faire venger sur moi.
Parce que vous filmez.
Je pense que j'ai été choisi parce que j'étais en train de filmer.
Filmer, c'est ça. Et ça l'agace, hein, c'est sûr.
Oui, parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas beaucoup d'autres membres qui étaient matraqués.
Oui. Non, mais il y avait quand même plusieurs arrestations. On parle de 27 arrestations. Hein. On parle de 84 arrestations. Ça, c'est des gens qui sont menés au poste de police. Et 27 accusations criminelles. Là, c'est...
Oui, oui. Nous, on était mis... Après, on a parti de la rue. Après qu'on a été attaqué comme ça, on était sur le terrain privé, même, de la tour Ville-Marie. Et on a été arrêté à cette fois-là, après qu'on a quitté la rue.
Oui. Mais monsieur Vassfeld, vous avez justement... c'est bizarre, vous avez participé dans cette manifestation et vous étiez parmi les gens à qui ça sera difficile de reprocher que vous étiez agressif ou vous avez voulu détourner quoi que ce soit ou vous comprenez. Alors vous êtes vous à votre âge à 67 ans et surtout l'état de votre santé qui est trop fragile. Sandra, une femme, une mère de ses enfants et d'autres de ce style-là. Quelle est la réaction que vous avez ce matin à nous dire ça?
On était
ciblés, vulnérables, plus vulnérables que
ciblés et punis par la police parce qu'on ne veut pas être intimidé. On a resté dans la rue où Sandra n'a pas reculé en peur de la police. Elle est restée en place. La police est venue autour d'elle. Elle a pris comme une cible pour montrer que leur pouvoir est plus fort que notre vouloir. Mais il s'est trompé parce que notre vouloir reste encore et leur pouvoir sera coupé. Même le chef de police, il a démissionné par après tout de suite.
Mais c'est difficile, M. Vassfeld, parce que vous, si on revient un petit peu à l'arrestation du 5 avril 2013, vous avez quand même été traîné à la cour et ça n'a été pas un exercice difficile.
Ça, c'était une arrestation sur le règlement P6, article 2.1, et on a été acquitté pour ça.
Et vous avez déposé une requête
J'ai déposé une requête, mais j'ai fait une objection même pour être acquitté parce que je veux procéder avec la requête sur l'inconstitutionnalité du règlement P6. Le juge ne veut rien savoir, il ne veut pas recevoir la requête. Il a déclaré que la requête sur l'inconstitutionnalité, ça veut dire la charte des droits et libertés de la personne de Québec, c'est purement académique.
Académique, oui. Oh my God.
Alors, il veut rejeter ça dans la poubelle, en effet.
Il ne veut rien savoir,
Il ne veut rien savoir.
Mais si je reviens maintenant au droit de manifester. Alors, vous avez participé dans, quand on parle de 2013, c'était vraiment la grève étudiante et les manifestations étudiantes. Vous avez participé parce qu'il y a la génération pour encourager ces jeunes-là de s'exprimer, de dire leur point de vue.
Oui, j'étais ensemble avec les étudiants parce que j'étais encore étudiant au doctorat. J'étais doctorant avant ma soutenance qui maintenant est passée. Et les suites de la grève générale en 2013, c'était ces événements-là. Et on était des centaines de manifestants qui étaient mis en souricière facilement. On était arrêtés et après, on était acquittés parce que c'était évident. Le juge Rockwood, je pense, c'est son nom, qui décidait que, évidemment, c'était une arrestation fabriquée. Alors, il a démissionné, rejeté, c'est acquitté. Pas juste un rejet d'accusation, mais une acquittance qui est plus fort encore.
Oui, mais vous avez quand même pris le temps d'aller se défendre et tout. Mais imaginez-vous, pouvez-vous nous dire le temps à partir de quand on vous accuse jusqu'à aller à la cour? Est-ce que ce n'est pas décourageant? Et c'est ça ce que le gouvernement finalement cherche?
C'est sûr. La police veut faire l'intimidation et la cour veut faire découragement. pour qu'on ne répète pas la même sorte de geste.
Et ça marchait parce que la plupart des personnes, maintenant que je parle avec eux, et surtout les jeunes, ils veulent rien savoir de manifestations. Ils ont trop peur d'aller dans une manifestation.
Ça se peut, mais il y a d'autres membres qui sont motivés pour sortir comme auparavant et n'ont pas pensé que c'est assez important.
Ils s'accrochent encore.
Alors, il y a toutes sortes de réactions par après.
Oui.
Parce que ça peut provoquer le monde pour sortir dans la rue aussi.
Tout à fait, oui.
Comme moi. Je lâche pas.
Oui, je lâche pas, justement, je lâche pas. On va juste faire une pause musicale. On reste sur le mot, vraiment, il faut pas lâcher. On dit bien que la manifestation, c'est un droit commun, c'est un droit fondamental dans une société.
C'est ça.
Il faut encourager les gens à descendre à la rue, hein, rue et dire non et s'exprimer leur opinion sans crainte aucune, normalement.
On continue le combat.
Oui. Alors voilà, chers auditeurs, on va juste faire une petite pause musicale et probablement on va revenir aussi avec M. Abraham Wasfeld. Il va continuer un petit peu à nous parler de sa deuxième arrestation parce que, imaginez-vous, le service de la ville de Montréal lui oblige pour le libérer, il oblige de signer un document de ne plus revenir sur le lieu d'une manifestation, ce qu'il a refusé justement, mais d'autres personnes comme Sandra et tout, ils l'ont signé. Et imaginez-vous aussi, Sandra me disait que son avocate qui lui a conseillé de le faire. Alors sur ça, chère auditrice, chère auditeur, on va faire une petite pause musicale, on va revenir avec nos deux invités. Alors je vous invite à rester à l'écoute. Dans quelques instants, on va revenir avec vous.
Thank you.
Alors, bonjour, chère auditrice, chers auditeurs. Vous êtes toujours en direct sur les ondes de Radio Centre-Ville, 102.3 FM, avec votre émission du mouvement Action Justice, une émission consacrée exclusivement à dénoncer les abus de pouvoir et les injustices dans notre société contemporaine. Et nous sommes toujours avec le sujet d'actualité. Est-ce qu'on a encore le droit de manifester au Québec, oui ou non? Est-ce que le droit de manifester est réservé pour certains, alors pour d'autres il est interdit? Et nous avons avec nous ce matin M. Abraham Wasfeld. Il est docteur en sciences politiques. Il a soutenu une thèse de doctorat titrée « Nation, société et l'État, alors réconciliation de l'identité nationale palestinienne et juive ». C'est le dialogue, hein. Vous basez beaucoup dans votre thèse de doctorat sur le dialogue. Hein. C'est important pour vous, le dialogue.
Le dialogue, oui. En termes concept politique, c'est la réconciliation par réciprocité.
Oui.
Il y a un principe de réciprocité. Un droit pour un peuple doit être égal avec le droit d'un autre peuple, sinon, ce n'est pas un droit.
Exact. Alors, pour vous, ici, le sentiment que vous avez ici, c'est foule qui descend dans la rue, justement, pour exprimer une opinion, pour dire, ils cherchent un dialogue, finalement. Ils cherchent un dialogue. Est-ce que vous pensez qu'il y a, réconciliation de dialogue? Est-ce que pensez-vous qu'il y a une possibilité aussi au Québec de dialogue? Est-ce que les politiciens qui sont sur la sphère politique, est-ce qu'ils sont là pour écouter la foule qui descend à la rue pour dire non?
Je veux que Culliard, là, est en train de dire qu'il refuse de considérer aucune modification de son programme d'austérité, de coupure dans les services publics pour faire balancer son budget. À la même fois, il réduire la taxe sur les corporations de 11,6 à 11,3%.
Mmh. Oui.
Alors, il ne veut rien savoir. Nous, on sort dans la rue pour dialoguer avec le gouvernement.
On
sort dans la rue, en public, devant tout le monde pour dire « Écoute, c'est pas ça qu'on doit faire, oui, parce que vous êtes en train de détruire notre économie. »
Exact. Il faut réfléchir sur ça.
Voilà. On doit réfléchir.
Parce que le citoyen a le droit de participer dans ce dialogue-là. Hein,
faites attention à notre revendication.
Oui.
Eux, ils envoient la police.
La réponse, c'est ça.
Oui, la réponse, oui, oui. Marc Parent, le chef de police qui est démissionné maintenant, affirme sur Radio-Canada qu'il est soutenu par les trois niveaux de gouvernement, sans condition.
Oui.
Alors, et ils sont bien financés aussi. Hein.
Oui.
Même ce printemps, ça a coûté $1 million de fonds publics.
Monsieur Wasfeld, votre exemple, et encore pire, l'exemple de Madame Sandra Caudero, est quand même, le message est important. Ça veut dire, normalement, on lui prête oreille, parce que quand même, elle parle de famille, et surtout de femmes immigrantes, de femmes monoparentales, de femmes, familles et foyers pauvres au Québec. Est-ce que, selon vous, ces femmes-là, vraiment, ils peuvent être touchées par l'austérité?
Oh, tous les services sociaux sont coupés.
Oui.
Le monde sont virés vers le secteur privé, même pour le médecin. Alors,
imaginez-vous les
pauvres familles avec plein d'enfants qui ont besoin d'un médecin toujours. Et il va entrer là dans les services à l'urgence ou à CLSC et il n'y a pas de services prévus.
Mais M. Wasfeld, je comprends là. Là, on les coupe leur survie et on les empêche aussi de s'exprimer. Parce qu'il y a un problème là, quelque part là.
Oui, ça devient très tendu.
Oui, là, voilà.
Alors, le monde est. Ils sont encore avec une image stéréotypique qui était promouvoir par le média par avant, pas maintenant, que tout le monde qui monte dans la rue pour manifester sont des black box.
Voilà, oui, oui, exact. Oui.
Qui sont avec l'intention de faire le saccage.
De briser, de cacher.
De tout, partout.
Oui.
Mais durant notre manifestation, il n'y a aucune vitre qui était cassée.
Exactement, surtout.
Rien.
Elle était composée de enfants. Il y avait des enfants. Moi, j'ai vu des handicapés, des enfants, des femmes, des mères, des grands-mères.
Oui. Même des touristes américains.
Oui.
des touristes américains.
C'est catastrophique.
Qu'est-ce qui arrive ici? J'ai vu une manifestation. Soudainement, la police commence à attaquer avec le gaz, etc. et avec aucune raison.
Oui,
c'est ça, les
terroristes
m'ont expliqué, voilà. Parce que moi, je suis venu après que la première vague de manifestations s'était dispersée.
Oui, oui.
Je suis venu avec le contingent de Metro Montréal, et la police, ils étaient absents même, parce qu'ils étaient en train de poursuivre les autres manifestants.
Oui.
La police était débordée. Ils commencent à capoter, parce qu'ils savaient qu'ils ne peuvent pas gérer une manifestation si grande que ça.
Oui.
Quand il y a des centaines, ils peuvent mettre tout le monde dans une souricière. Oui.
Exactly.
Ok. Mais quand il y a des milliers, alors ça commence à être sérieux.
Oui. Monsieur Varsfeld, vous avez quand même, vous vivez avec ça, vous le voulez ou non, l'histoire, votre histoire, hein, en tant que juif, l'histoire qui, si on remonte un petit peu, la souffrance, il y a une certaine douleur, hein, par rapport à aujourd'hui, là, vous avez vécu une enfance, un petit peu l'image, je dis bien l'image, là, cette image-là de l'Holocauste vous accompagne jusqu'à présent, ça a toujours une douleur quand on entend tout ça, et vous vivez maintenant aussi quelque chose un petit peu de semblable sur certains, c'est pas le même niveau de gravité, mais c'est quand même, c'est un début, quoi. Vous, quand vous êtes attaqué, frappé, traîné, menotté, conduit et faussement accusé, ça vous fait quoi comme réaction, vous?
Oh, c'était comme pas rationnel. C'était un événement incroyable, hors d'ordinaire.
Oui.
Extraordinaire, une vengeance, une violence des agents de l'État,
oui,
qui sont
gratuites, hein?
Gratuites, habillés, oui,
en uniforme,
comme des joueurs de hockey avec toutes sortes d'équipements sur le corps,
oui,
avec,
oui,
des boucliers, avec des casques, avec des viseurs, avec, oui, des matraques, mm-hmm, avec des canettes
c'était un contingent de guerre, tu veux dire.
C'était comme un militaire. C'est devenu comme militarisé,
ouais,
oui,
ouais,
qui a foncé sur nous, ouais, sans arrêt.
Ouais.
Ce n'était pas comme par habitude, ils vont pour repousser une manifestation. Ils vont 5 pas et, ouais, ils arrêtent.
Et exactement, M. Passfeld.
Cette fois-là, il avançait sans
arrêt. Oui, oui, oui.
C'était un assaut. C'était comme.
Un assaut, quoi.
Oui, oui, un assaut, oui, comme une action militaire.
Oui. M. Passfeld, justement, ce que me disait Mme Sandra Codero, elle disait qu'il lui donnait des coups dans le dos, mais des coups tellement forts, il lui faisait mal. Alors, en arrêtant, et elle tourne vers le policier en question, elle lui dit: arrête, tu me fais mal. Et c'est là où l'arrestation se produit.
C'est ça. C'est quand c'est ses bras s'étaient tordus sans raison, étaient déjà maîtrisés, étaient en train d'attendre pour qu'il vous ouvre la porte, le char de police pour être mis là-dedans. Mm. Et ils sont mis comme torturés un peu pendant cette période d'attente pour rien du tout.
Oui, Monsieur Passfeld, je sais que pour l'arrestation du 5 avril 2013, vous étiez acquitté de toute accusation. Et là, vous avez une autre accusation. Mais ce qui est bien, là, ce que j'aimerais bien, pourquoi vous avez refusé de signer cet engagement-là, de ne pas aller à aucune manifestation? Et justement, j'avais posé cette question à Madame Paola Gomez, qui a fait quand même une information en droit. Est-ce qu'un policier a le droit, justement, de Madame Gomez, est-ce qu'il a le droit justement de interdire quelqu'un d'aller à une manifestation ou non?
Donc, seulement la cour,
ouais,
ou les juges ont le droit d'interdire,
ouais, ouais,
de participer à une manifestation.
Ça, ouais. Et alors, il faut normalement attendre qu'un juge le déclare que vous ne pouvez pas assister. Mais, Monsieur Vassouet, pour vous, un policier qui vous a demandé justement de signer, à condition, si vous ne la signez pas, vous ne pouvez pas reprendre votre liberté, hein?
Ça se peut, oui.
Oui.
Mais moi, je n'ai pas répondu, oh, je vais sortir pour aller à une autre manifestation.
Oui.
Non, je n'ai pas répondu comme ça.
Oui.
J'ai répondu que, regarde, je ne signe rien du tout sans avocat.
Voilà. Ouais.
Alors, c'est raisonnable. Alors, ils ne pouvaient pas me mettre gardé en prison parce que je voulais pas signer n'importe quoi.
Oui. Et monsieur, dans le cas de Sandra, par exemple, elle a appelé son avocate et c'est l'avocate qui lui dit: oui, vous devrez signer. Alors, ça, c'est encore. Alors,
je sais. Parce que c'est un avis formel, simple, qui veut dire que la police pouvez vous garder en prison, oui, si vous ne signez pas.
Mais M. Passfeld,
c'est vrai.
Je sais que.
Mais oui, ce n'est pas nécessairement le cas. parce que c'est comme un défi. On lance un défi à la police pour ne pas signer.
Ouais.
La police doit décider, oh, est-ce qu'on peut garder cette personne en prison parce qu'il n'a pas signé?
Ouais.
Ça va apparaître comme un peu excessif avec les médias. Alors, il ne veut pas.
C'est mieux de le faire.
Alors, avec l'opinion publique, on peut prendre plus de résistance avec la police, parce que la police ne peut pas faire n'importe quoi.
Monsieur Versfeld, ce que j'aimerais bien savoir aussi maintenant, vous avez refusé de signer et vous allez quand même, ce que vous m'avez dit, vous allez quand même aller participer à une manifestation. Est-ce que vous n'avez pas une crainte par rapport à ça? Même alors, si vous n'avez pas signé vos documents.
Oui, c'est ça. J'ai parlé avec un avocat qui veut dire que je peux être arrêté même si je n'ai pas signé la promesse.
Ouais.
OK, alors, je comprends. Mais le return, je vais aller quand même devant le quartier général de la SPVM de la police avec les manifestants.
Le 8 juin?
Le 8 juin, oui.
Et, rendez-vous à tout le monde le 8 juin devant le quartier général de la police de Montréal.
Oui. Et on va manifester là.
À quelle heure?
À quelle heure? Je ne sais pas. Ce n'est pas fixé encore.
OK. Mm-hmm. Mais il y aura le 8 juin, il y a déjà prévu une manifestation devant le quartier général de la police, c'est ça?
Et c'est intitulé « Assez, c'est assez ».
Voilà, assez. Et vous allez être là?
Oui. Je vais faire lancer un défi à la police pour dire que vous ne pouvez pas m'ordonner pour ne pas participer dans une manifestation. Moi, je viens pour participer, pour filmer. Je viens comme activiste, je viens comme docteur de sciences politiques et je viens comme journaliste.
Oui.
Et s'il veut me faire arrêter, alors on va aller voir ce que le juge va
dire
à propos de ça.
Oui.
Parce que moi, je veux briser cette interdiction, pas en 2 ans.
Oui.
Comme ça a pris avec la première fois que j'étais arrêté en 2013, ça a pris 2 ans pour être acquitté.
My God, c'est ça.
Alors, on ne laisse pas faire manipuler comme ça.
Oui.
On va aller tout de suite à la question avec un juge. Est-ce qu'on a droit pour manifester, oui ou non?
Vous voulez vraiment être traîné devant un juge et c'est à lui de décider est-ce que vous allez continuer à participer à une manifestation, oui ou non?
Oui, parce que je vais aller devant un juge pour dire que je demande que vous brisez le pouvoir de la police pour arrêter n'importe qui, n'importe quand, n'importe comment, n'importe où.
Et d'interdire les gens de participer.
Oui, on va briser le pouvoir de la police parce qu'il n'a pas l'autorité pour le faire. Parce qu'une charte est droit à la liberté de la personne de Québec qui donne le droit d'assemblée pacifique. Et ça, on ne peut pas dépasser.
Monsieur Vassouet, vous parlez aussi au nom de c'est-à-dire les gens qui vous écoutent, surtout les arrêtés de toutes les manifestations, ils vous écoutent ce moment-là et vous reflétez un petit peu ce qu'ils ont vécu, ce qu'ils sont en train de vivre aujourd'hui. Quelle est réellement votre réaction? Quel sentiment? Nous vivons dans une société comme le Québec, au Canada, et on vit dans ce stade-là. Vraiment, quel est le sentiment que vous avez présentement? Vous êtes habité par quelle révolte vous avez...
Moi, je me sens comme j'appartiens à une révolte internationale. C'est mondial maintenant, la révolte. Hein? Même Marc Parent, dans sa lettre de démissionnement, il fait mention de le grand défi devant la police parce qu'il y a un mouvement social en Amérique du Nord avec qui il doit se confronter.
Oui.
Alors, il est conscient qu'il y a quelque chose qui bouge ici, qui est sans précédent.
Oui.
C'est énorme. Et la police, il ne voulait pas laisser ça passer. Il se prend le pouvoir comme une police politique. C'est eux, la police, qui veut fonctionner comme agent de l'État pour supprimer le mouvement social.
Oui.
C'est ça leur raison d'être maintenant.
Monsieur Vassfeld, des gens comme vous, pensez-vous qu'ils vont continuer le combat et qu'ils vont arriver à plier, je ne dis pas plier, peut-être c'est un peu un mot trop fort, ramener un peu la raison aux politiciens pour dire, écoutez, là, il faut encourager la manifestation.
Oui.
La protéger, l'encourager, parce que c'est quand même c'est l'intérêt, tout l'intérêt, il est pour, pour le gouvernement aussi. Hein.
Oui.
C'est l'image des sociétés quand même.
On est obligé de poursuivre nos buts. Parce que sinon, la direction prise par la police et par les politiciens, maintenant, ça amène vers une dictature.
Oui, voilà. Ouais. Alors, chers auditeurs, nous n'avons pas pu, malheureusement, rejoindre Mme Sandra Cordero. On a essayé de la rejoindre, mais on n'a pas pu. Alors, on va revenir juste maintenant avec son collègue qui est là et qui a participé ce matin. Il était à la cour municipale. Monsieur Salamanca, c'est ça?
Oui.
Salamanca,
oui.
Vous connaissez cette Sandra très, très bien. Pouvez-vous nous parler de son combat, s'il vous plaît, là, dire quelques mots aussi sur ça?
Si, je vais parler en espagnol un petit peu.
Ah, vous pouvez parler en espagnol oui. Madame Paola Gomez, elle va vous traduire.
Si, se trata de una lucha, se trata de un combate contre las injusticias sociales que se cometen contre los inmigrantes.
S'il s'agit d'une lutte, c'est surtout des injustices que se commettent contra los inmigrantes.
Porque actualmente en Canadá, con las políticas inmigratorias que se tienen, las políticas inmigratorias están produciendo diversas categorías de gente y, por lo tanto, diversas categorías de vulnerabilidad social.
El programa de migración y la émis par le gouvernement de Canada et Québec, on donne un sort de catégories et subcatégories des individus.
Par exemple, je vais parler seulement de le droit à la manifestation.
Oui, le droit de
manifestation. Ouais. Si tu as, par exemple, des réfugiés, mm-hmm. les réfugiés n'iront pas à la manifestation.
Ils ne vont pas aller à la réfugiée.
Oui, parce qu'il y a peur. Il y a peur parce que c'est
le statut
immigratoire précaire. Tu ne veux pas avoir problème
et
avec
pourtant,
la police.
Et pourtant, ils ont des choses à dire.
Oui.
Ils ne peuvent pas descendre à la rue.
Il y a des choses à dire comme ça. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui gagnent. Ouais. Moins de le minimum.
Oui, parce que Sandra m'a dit qu'il y a des gens qui sont exploités par des agences de déplacement.
Surtout des agences de déplacement.
Et ils sont payés $5 l'heure ici au Québec.
Il y a des cas que se peut trouver des gens qui sont, par exemple, sans papiers, oui. pas illégalisés, oui. et sont des sans papiers qui oui. sont en process, par exemple, d'appliquer pour un humanitaire. Mm-hmm. Il n'y a pas le permis de travail pour sa situation. Oui. Il y a différentes questions qui sont bureaucratiques.
Exact.
Et ils sont très vulnérables pour cet état précaire. Oui. Ils doivent accepter des travaux très précaires.
Et selon vous, le gouvernement, il est au courant mais...
Et oui, parce que c'est le secret, c'est une manière de sortir de la situation de crise économique, parce oui. que je pense, personnellement, je crois que la moyenne entreprise canadienne oui. et québécoise est survivre merci à les travailleurs immigrants, à beaucoup de travailleurs immigrants qui sont précarisés, qui travaillent pour les gens, qui sont flexibles, qui ont du travail flexible.
Sur la terre du Québec, hein, dans la société québécoise, des gens... On est au courant de ces gens-là. Et le problème, ces gens-là, ils cherchent tout simplement de descendre dans la rue pour dire voilà qu'est-ce qu'on vit. Ils veulent s'exprimer un petit peu cette révolte qui est à l'intérieur, cette injustice. Et ils n'ont pas le droit de le faire, de crainte d'être.
Oui, parce que personne qui va voir les vidéos de Sandra,
oui.
personne immigrant qui va voir, il a les pieds pour sortir à la rue pour participer et demander.
Alors, les gens oui. qui vont voir le cas de Sandra, de M. Vassfeld et tous les arrêtés, ils sont découragés pour aller assister et participer à une manifestation.
Et pour vous,
ça, c'est une grande injustice.
Oui,
parce
c'est
que on nous enlève à quelqu'un le droit de s'exprimer, de dire écoutez, là, on a un problème.
Oui, parce que si mon situation immigratoire est précaire,
oui.
pire, si je veux qu'avec les personnes qui ont la citoyenneté, la police fait ça, qu'est-ce qu'il va faire avec moi?
Mm-hmm.
Non?
Qu'est-ce qui va arriver avec moi?
Oui, oui, oui.
Il sera expulsé facilement pour vous,
c'est ça. Il y a
la crainte d'être
expulsé. Oui, c'est ça.
Et
la variété de vulnérabilités sont immense, il y a beaucoup de catégories qui se peuvent passer, il y a le manque de permis de travail, le manque de réfugiés.
Et le nombre de ces gens-là, ils sont nombreux ici au Québec?
Ils sont très nombreux,
mais ils ne peuvent pas ensemble descendre à la rue pour dire à M. Cuillard, regardez par là, on a un problème. Alors, chère auditrice, chers auditeurs, tout ce que je peux vous dire, merci d'avoir été à l'écoute ce matin. Je remercie énormément M. Abraham Vassfeld qui a participé à cette émission. Il nous a vraiment éclairé beaucoup de choses. Merci à M. Salamanca. Merci beaucoup de votre participation. À ma collègue aussi, Paula Gomez, un grand merci de votre participation. Alors, on dit à tout le monde, ceux qui veulent participer le 8 juin, donc il y a une manifestation devant le quartier général. Monsieur Abraham Vassfeld, il va être là. Et voilà, donc sur ça, je vous dis, chers auditeurs, chers auditeurs, merci d'être à l'écoute. Merci à Radio Centre-Ville de nous avoir cédé cette fenêtre afin que la parole de l'autre existe. Et je vous donnerai rendez-vous la prochaine. Au revoir.
diable vous parle en toute liberté.
Vous habitez le Grand Montréal? Vous avez plein d'idées? Vous avez un projet télé utile pour votre communauté? Présentez votre concept à MaTV et il pourrait prendre forme à la télé. En tout temps, MaTV reçoit vos projets d'émission. Vous pouvez participer devant ou derrière la caméra. La chaîne MaTV est le reflet de sa communauté. Visitez le site web matv.ca pour connaître tous les détails. MaTV, l'espace citoyen de Vidéotron.
Vous voulez passer le TEF, le TEFAC ou le TEF professionnel pour les consultants? Vous ne savez pas quoi faire et comment réussir ce test? Contactez notre centre agréé au 514-844-4849 ou visitez notre site web au www.alcmontréal.com. ALC Montréal, une équipe de professionnels à votre disposition. Alors appelez-nous au 514-844-4849. ALC Montréal, centre agréé par la CCIP en partenariat avec Citoyenneté et Immigration Canada.
Montréal, la Ronde sera l'hôte du plus grand festival compas au Canada. Le 20 et 21 juin, le festival Montréal sous compas vous attend. Au programme, animation, spectacle, manège. Une vraie activité familiale avec les meilleurs groupes. Jacoute Number One, Mika Ben, Karimi, Tabou Combo, T-Vice, Connexion et plusieurs autres. Admission, $25 par jour ou $40 pour les deux jours. Spécial valide jusqu'au 22 mai. Le 20 et 21 juin, venez en grand nombre à la Ronde pour vibrer au rythme des Caraïbes. Achetez vos billets maintenant.
Radio Centre-Ville, 102,3 FM.